C'est donc reparti pour une nouvelle saison des Voix de l'Alma, l'émission des libraires montalbanais, chaque premier mardi du mois. Les libraires de Montauban se retrouvent dans les studios de CFM pour vous présenter leurs coups de cœur et leurs actualités. Aujourd'hui, autour de la table, Philippe Bernadou de la librairie de Loche. Bonjour Philippe.
Bonjour, très content de vous retrouver.
Hugues Dedy, à nouveau avec nous aussi du comptoir de Sildavie. Bonjour.
Bonjour.
Une librairie spécialisée bande dessinée. Et puis, au Scribe, sur le Faubourg La Capelle, il y a toujours Jacques Griffaud aux commandes. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va, oui.
Et c'est vous qui nous présentez l'auteur du mois ?
Oui. Alors l'auteur du mois, ça va être Delphine Berthelon. Alors pourquoi Delphine Berthelon ? Parce que elle a obtenu le prix du lycée Michelet pour un roman qui s'appelle Twist, qui est une histoire à couper le souffle, et donc elle va venir dans ce cadre-là le 30 septembre, j'en reparlerai tout à l'heure. Mais elle a une autre actualité aussi, c'est qu'elle a, elle publie à la rentrée un autre livre qui s'appelle « L'effet Larsen ». Alors Delphine Berthelon, ben elle est née, elle a grandi à Lyon, à deux pas de la maison des Frères Lumière, ce qui est pas indifférent parce que vous verrez qu'elle s'intéresse au cinéma. Elle m'a dit que dès qu'elle savait lire, elle avait englouti les 49 volumes de Fantomette. Une addiction qui rend les courses au Monoprix on ne peut plus excitante. Et puis dès qu'elle sait écrire, elle entreprend la rédaction de nouvelles, qui est un métissage, dit-elle, improbable entre Star Wars et La Petite Maison dans la Prairie. Enfin, elle est tout de même très sérieuse, parce qu'à 18 ans, elle entre en Hippocagne, elle découvre Henri Michaud, elle se prend d'amour pour la littérature américaine, et Twin Peaks, la série, la fameuse série de David Lynch. Elle va pousser l'effort jusqu'à la cagne, et puis, comme elle est un peu trop dilettante pour intégrer Normal Sup, elle va terminer sa maîtrise de lettres modernes à Lyon 3, et elle va publier un premier roman qui s'appelle Les dentelles mortes, et qui va être publié dans une maison régionale. Alors ce roman reçoit le prix du roman de Villeurbanne, elle est galvanisée par cet encouragement, elle monte à Paris rejoindre un ami qui est parti tenter sa chance comme réalisateur. Et à partir de là, eh bien, elle va devenir scénariste tout en poursuivant un travail littéraire, elle va beaucoup s'intéresser au cinéma, elle fait son coming out professionnel aux grandes dames de ses parents. Non, je ne serai pas prof de lettres, je serai auteur. Dur. Alors la vie étant ce qu'elle est, ben elle n'a pas été auteur tout de suite. Elle a acquis une solide expérience comme hôtesse d'accueil, comme pigiste, comme standardiste soi-disant bilingue, comme vendeuse de vêtements et autres réjouissances. Et puis voilà, en 2006, elle publie « Cabine commune » chez Jean-Claude Lattès, qui est paru en poche en février 2010, qui reçoit un bon accueil. Dans le même temps, elle signe une série pour Canal+, qui s'appelait « Madame Hollywood ». Elle écrit deux longs métrages pour le cinéma et elle adapte Cabine commune pour le théâtre. Alors elle va se lancer ensuite dans Twist, donc qui est son premier véritable grand roman, un roman ambitieux, puisque ça regroupe des thèmes de prédilection, l'adolescence, la solitude, le désastre amoureux, etc. Et puis ensuite, eh bien, en 2009, elle commence à écrire L'effet Larsen, qui vient de sortir à cette rentrée littéraire.
Et dont elle nous parlera lors de la rencontre du 30 septembre.
Et dont elle viendra parler lors de la rencontre du 30 septembre au Scribe.
Voilà, il s'agit donc de Delphine Berthelon, vous nous en reparlez en fin d'émission. Le coup de cœur de Philippe Bernadou, c'est Jérôme Ferrari.
C'est vraiment mon grand coup de cœur de rentrée. Jérôme Ferrari, c'est un jeune auteur qui est né quelque temps après ce qu'on a coutume d'appeler les événements d'Algérie, n'est-ce pas ? Et il leur consacre un livre tout à fait bouleversant. En deux parties, la première partie, la plus violente, la plus passionnée, rapporte l'adresse, je dirais, ce n'est ni une lettre, ni un journal, on ne sait pas trop, mais c'est une interpellation que le lieutenant Andreani, et il y a beaucoup de Corses dans ce roman, destine au capitaine De Gorce pour lui dire son admiration déçue et la haine qui s'y est peu à peu insinuée. Il se trouve en effet que tout part d'Indochine où Andreani n'a survécu au camp de prisonniers que grâce à l'exemple que lui donnait son supérieur. Mais quand ils se retrouvent en 57 à Alger, ils sont tous deux chargés d'obtenir, par tous les moyens, des renseignements sur le FLN. À ce moment-là, leurs attitudes divergent. Andreani, lui, fait sa tâche sans scrupule. C'est un parfait exécutant, et un parfait exécuteur d'ailleurs. Retranché derrière ses valeurs, l'obéissance, l'efficacité, le souvenir de ses camarades tombés. Le capitaine de Gorce, lui, par contre, est en proie au doute, il est bousculé par sa foi, il est chrétien, il est harcelé par l'image qu'il voudrait bien donner à sa femme, à ses filles. au point qu'ils tissent avec un commandant du FLN qui s'appelle Tahar et qu'ils viennent de faire prisonnier des liens où entre du respect, de la fraternité et presque de la sympathie. L'écriture de Ferrari se partage entre un aspect très emporté, très colérique, quand elle prête sa plume, bien sûr, au lieutenant Andréani. Et par contre, quand il décrit à la troisième personne les questionnements du capitaine de Gorce, nous trouvons une écriture plus introspective, plus douloureuse. Je crois que la grande force de ce livre, c'est certainement dans le fait que l'auteur n'a pris parti pour aucun des deux protagonistes. Il m'a semblé qu'il ne s'agissait pas pour lui de désigner lequel porte la vérité, lequel s'égare dans l'erreur, mais bien de rentrer dans le cœur et les tripes, les cœurs de l'un et les tripes de l'autre, de deux hommes noyés dans ce grand mensonge qu'a été la guerre d'Algérie. Cela s'appelle « Où j'ai laissé mon âme » de Jérôme Ferrari aux éditions Actes Sud.
Plus léger est le coup de cœur Duc de Die du comptoir de Sildavi.
Oui, il s'agit d'un shoujo manga. Donc shoujo manga, je rappelle, hein, c'est un manga destiné aux filles qui s'appelle Library Wars, donc la guerre des bibliothèques. Alors pour la petite histoire, c'est l'adaptation graphique d'un roman qui a été écrit par Hiro Arikawa dans les années 2000, c'est donc de la politique fiction, et ça a reçu au Japon l'équivalent du prix Hugo, qui est donc le prix qui décerne le meilleur roman de science-fiction. Donc là, pour parler d'abord du contexte, parce que le contexte est important, le Japon retrouve une dictature implacable qui va très rapidement mettre son nez dans les médias et dans les bouquins et en censurer énormément. Et très rapidement, des bibliothécaires, des libraires, enfin des acteurs du livre, surtout des bibliothécaires et des libraires, vont se constituer en une force de résistance qui va militer contre cette censure. Voilà un peu le contexte. Alors l'histoire démarre lorsque Iku, qui est une jeune fille qui est au lycée, elle est en terminale, elle a entre 14 et 16 ans, découvre dans une librairie un bouquin qu'elle souhaite lire depuis longtemps, elle s'y précipite, elle l'achète. Au même moment arrive l'armée qui va faire un peu le ménage dans cette librairie et retirer donc tous les ouvrages qui sont pas conformes à la doctrine, dont l'ouvrage qu'elle vient d'acheter. Arrive un tout petit peu plus tard un charmant garçon qui va réussir à négocier avec l'armée la libération de cette jeune fille qui est menacée parce qu'elle vient d'acheter un livre censuré. Et voilà un peu le contexte. Très rapidement, cette jeune fille souhaite intégrer cette force de résistance, l'intègre, et se retrouve dans une formation où son formateur sera justement ce jeune homme. Mais là, il n'est plus tout aussi charmant, mais il se révèle être un formateur assez dur. En plus, cette jeune fille, elle accumule les bourdes, les petites erreurs, alors qu'elle a énormément de potentiel. Donc on a affaire vraiment à une romance, c'est un shoujo manga, dans un cadre politique extrêmement fort. Alors là où Red Bradbury traitait dans Fahrenheit 451 la dictature et la censure vraiment sur un ton extrêmement dramatique, là on est vraiment à la limite de la comédie, donc où on alterne à la fois l'engagement politique de la jeune fille pour la liberté d'expression et pour la liberté d'accès à tous les livres et à tous les propos de livres, et puis en même temps une relation amoureuse qui prend des allures de mission impossible. Voilà, donc ça s'appelle Library War, c'est plutôt une lecture que je conseille aux jeunes filles de 13 à 16 ans. C'est écrit par Kihiro Yumi et c'est édité chez Glénat.
Merci Hugues Dedi. Jacques Griffaut, le prochain coup de cœur est pour vous.
Oui, eh bien ça s'appelle Le Front Russe. C'est un livre qui est écrit par Jean-Claude Lalumière et c'est publié aux Dilettantes. Alors le narrateur, il pensait bien avoir trouvé un emploi qui allait lui permettre de réaliser son rêve de jeunesse, qui était de voyager. C'était un goût d'ailleurs qui lui était venu en dévorant les quelques exemplaires que son oncle Bertrand lui avait offert, des exemplaires du magazine Géo. Alors il tournait ça, etc., il trouvait ça formidable, etc. Mais malheureusement, adulte, il va passer le plus clair de son temps, enfin on dit le plus clair, en fait je devrais dire le plus sombre de son temps, dans un bureau au mur blanc. Il est rentré il y a 5 ans au ministère des Affaires étrangères avec l'envie de parcourir le monde. Il se disait, je vais bien réussir, hein, être dans une ambassade, dans un consulat au loin, où je vais faire des visas, des choses comme ça, des visas, etc., pour des passeports, des trucs comme ça. Et pas du tout. Et ses rêves de voyage, là, on peut dire qu'ils se sont dégonflés, comme il le dit, comme les coussins d'air d'un naviplane resté à quai. Il a été affecté à l'administration centrale, et plus précisément au bureau des pays en voie de création, section Europe de l'Est et Sibérie. C'est une section qu'entre eux, les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères appellent justement le front russe. Et c'est même pas hébergé au ministère des Affaires étrangères, mais c'est dans des bureaux près de la gare d'Austerlitz, dans le 13e arrondissement. Alors, de quoi s'agit-il? Quelle est la mission? Eh bien, son chef de section, qui s'appelle Boutineau, et qui dirige ses hommes comme des militaires, lui dit qu'il s'agit de prendre la suite des services secrets, de préparer, une fois que les pays en cause sont stabilisés, l'arrivée des missions diplomatiques officielles, c'est-à-dire les recevoir, les accueillir, etc. C'est pas très très excitant. Mais notre narrateur, il veut essayer de bien faire, alors que ce bureau roupille tranquillement. Bien faire, ça veut dire qu'il s'active, envie de se faire remarquer, d'essayer de faire carrière. Mais de fait, c'est un espèce de Gaston Lagaffe absolument terrible. Un gaffeur patenté, c'est un planificateur de catastrophes, et le plus souvent, qui sont très drôles, assez désopilantes. Alors dans son bureau, il y a des collègues, comme on dirait aujourd'hui, improbable. Il y a Alice, qui a une vingtaine d'années, qui sera sa maîtresse, une fugace maîtresse. Il y a Arlette, qui a 50 ans, qui a l'air blafard, et qui, elle, alors ça, j'avais jamais entendu ça, elle se vante de travailler à l'instinct. Les procédures, elle s'en fout, etc., mais elle travaille à l'instinct, donc elle sait ce qu'il faut faire, etc. Et puis il y a Marc Germain, qui est un informaticien, alors lui, qui est toujours en jean et en t-shirt, alors ça, dans tous les bureaux, c'est bien sûr le signe de distinction des informaticiens, le jean et le t-shirt. Mais lui, il a des t-shirts qui viennent de tous les pays du monde, qui viennent de Bangkok, de Tokyo, de Bali, etc., d'autres destinations exotiques qu'il rapporte de ses vacances. Enfin, c'est ce qu'il dit. Quant à Philippe, son plus proche collègue, alors lui, il a une façon de classer les documents qui est très 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 personnelle, puisque il va les classer en couleurs, selon la couleur des gens qui habitent les pays en cause. Etc. Bon, ben voilà notre narrateur qui est bien frustré dans son désir d'horizon. J'avais l'impression d'être loin sans être ailleurs. Qui se résigne. Je vis, il ne se passe rien. Et le dernier mot du livre, il dit l'histoire d'une vie. C'est toujours l'histoire d'un échec. Alors le livre, lui, c'est une réussite. C'est caustique, c'est savoureux, c'est très drôle. On rit de bon cœur et très souvent. Le Front Russe, je crois que c'est le premier roman de Jean-Claude Lalumière et c'est publié aux Dilettantes.
On arrive à la mi-temps de cette émission. J'en profite pour vous rappeler que si vous ratez tout ou partie des explications des ouvrages de nos libraires montalbanais, vous retrouvez ça sur leur site internet librairiemontauban.fr. Et le podcast de cette émission sur cfmradio.fr. Une rentrée littéraire sans un Welbeck, c'est impossible, hein, Philippe Bernadou.
C'est quand même pas tous les ans, grâce à Dieu. Et avant de vous lire quelques passages choisis, j'aimerais vous dire deux mots quand même. D'abord, je tiens à vous préciser que tout ce que je vais dire à partir de maintenant n'engage que moi, et non pas mes confrères de l'ELMA. Pardon. J'ai en effet senti comme un vent d'effroi quand j'ai proposé de parler de M. le maudit Welbeck. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas vous redire ce que vous avez déjà lu, entendu, ici ou là, ce que vous allez lire et entendre, parce que j'ai vu le programme de presse des 15 jours à venir, c'est dément. Bon, on saura qu'il est le chantre de notre monde post-moderne, ou au contraire, et qu'il est un réactionnaire, un nihiliste invétéré. Moi, je voudrais juste vous faire part de ma réaction de lecteur. Moyen, j'ai dévoré La carte et le territoire, c'est le titre, et qui plus est, je m'y suis franchement amusé. Pas toujours. Il y a des passages pontifiants plutôt irritants, et d'autre part, les nombreuses notices techniques dont on a parlé ces temps-ci, recopiées sur Wikipédia ou ailleurs, décrivant les voitures ou la description de Beauvais, je croyais qu'il l'avait prise dans le guide bleu, la description de Beauvais, à la lecture. Tout ça, c'est à mon avis, ce sont des provocations inutiles. Welbeck n'est jamais meilleur que quand il ne se prend pas au sérieux. Dans la description, par exemple, du milieu médiatico-parisien, ou dans la dérision qu'il met à faire à son autoportrait, et c'est ce que je vais vous lire maintenant. Et si on m'objectait que Welbeck se prend toujours au sérieux, là, franchement, je trouve ça encore plus drôle. Voici, portrait physique. Donc, il est un personnage de son dernier roman. Il n'est pas le héros. Le héros est un peintre qui va être amené à faire son portrait, donc à aller le voir en Irlande. Donc il frappe. Il tambourina pendant au moins 2 minutes à sa porte, sous une pluie battante, avant que Welbeck ne vienne lui ouvrir. L'auteur des particules élémentaires était vêtu d'un pyjama rayé gris qui le faisait vaguement ressembler à un bagnard de feuilleton télévisé. Ses cheveux étaient ébouriffés et sales, son visage rouge, presque coupe rosée, et il puait un peu. L'incapacité à faire sa toilette est un des signes les plus sûrs de l'établissement d'un état dépressif, se souvint Jed. Donc il lui amène une bouteille de vin, j'amène une bouteille de vin, une bonne bouteille, s'exclama Jed avec un enthousiasme un peu fou. Une seule bouteille, demanda l'auteur de la poursuite du bonheur en allongeant le cou vers l'étiquette. Il puait un peu, mais moins qu'un cadavre. Les choses auraient pu se passer plus mal après tout. Puis il se retourna sans un mot après avoir agrippé la bouteille. Jed interpréta ce comportement comme une invitation. Ça, c'est le portrait physique. Ensuite, portrait moral de l'individu. Donc, c'est une autre fois, ils vont manger au restaurant à 6h30. On mange tout, vous savez, dans ce pays, c'est Welbeck qui parle. Mais ce n'est jamais assez tôt pour moi. Ce que je préfère maintenant, c'est la fin du mois de décembre. La nuit tombe à 4h. Alors je peux me mettre en pyjama, prendre mes somnifères et aller au lit avec une bouteille de vin et un livre. C'est comme ça que je vis depuis des années. Le soleil se lève à 9h. Bon, le temps de se laver, de prendre des cafés, il est à peu près midi. Il me reste 4 heures de jour à venir. Le plus souvent, j'y parviens sans trop de dégâts. Mais au printemps, c'est insupportable. Les couchers de soleil sont interminables et magnifiques. C'est comme une espèce de putain d'opéra. Il y a sans arrêt de nouvelles couleurs, de nouvelles lueurs. J'ai essayé une fois de rester ici tout le printemps et l'été, et j'ai cru mourir. Chaque soir, j'étais au bord du suicide, avec cette nuit qui ne tombait jamais. Depuis, début avril, je vais en Thaïlande et j'y reste jusqu'à la fin août. Début de journée 6h, fin de journée 6h, c'est plus simple, équatorial, administratif. Il fait une chaleur à crever, mais la climatisation marche bien. C'est la morte saison touristique. Les bordels tournent au ralenti, mais ils sont quand même ouverts et ça me va, ça me convient. Les prestations restent excellentes ou très bonnes. Là, j'ai l'impression que vous jouez un peu votre propre rôle, dit le visiteur. Oui, c'est vrai, convint Welbeck avec une spontanéité surprenante. Ce sont des choses qui ne m'intéressent plus beaucoup. Je vais arrêter bientôt, de toute façon. Je vais retourner dans le Loiret. J'ai vécu mon enfance dans le Loiret. Je faisais des cabanes en forêt. Je pense que je peux retrouver une activité du même ordre. La chasse aux ragondins. Welbeck par lui-même dans La carte et le territoire chez Flammarion.
L'actualité des libraires montalbanais se résume en 3 dates et un appel. Et c'est vous qui nous présentez la première date, Jacques Griffaut, le 12 septembre à Lauzerte. Place aux nouvelles.
Donc, Place aux nouvelles, c'est une manifestation qui va fêter sa 5e édition. Et c'est une manifestation qui rassemble des auteurs autour de la nouvelle. Donc ce sont des auteurs qui ont écrit de nouvelles, mais aussi des romans et autre chose. Place aux nouvelles, ça a lieu à Lauzerte. Ça aura lieu à Lauzerte le dimanche prochain, 12 septembre, de 11h jusqu'à 18h30. Puis à 18h30, il y aura le pot de clôture qui est offert par la mairie. Alors qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps-là? Eh bien, à midi, pour ceux qui arriveront tôt, vous avez un apéro-débat sur le thème suivant. Notre patrimoine littéraire va-t-il revivre grâce au numérique? C'est Alain Apsir, qui est un nouveliste, un romancier, un ancien président de la Société des gens de lettres, il l'a été jusqu'au mois de juin dernier, qui présentera ce thème. Ensuite, de 14h30 à 18h15, chaque auteur ira lire pendant un quart d'heure des extraits de ses nouvelles ou certaines de ses nouvelles. Et ça se fera à la médiathèque dans 2 endroits différents, parce qu'il y a 30 auteurs et ils ont chacun un quart d'heure, donc ça se fait en continu. Alors l'entrée et la sortie est libre, à chaque fois on peut rentrer, on peut sortir. Il y aura deux débats qui seront co-animés par Christine Lacan et Alain Escudier. À chaque fois, il y aura 4 auteurs. Il y aura un débat à 15h et un autre à 17h. Ce sont des débats qui seront autour de la nouvelle. Il y aura 3 ateliers d'écriture. Un qui s'appelle Nouvelle calligraphiée, qui est animé par Bruno Riboulot, que vous connaissez, qui est de Auvillard. C'est un calligraphe d'Auvillard qui viendra et qui donc invitera les gens à écrire des parties de nouvelles en calligraphie. Il y aura un autre atelier qui s'appelle Nouvelle Timbrée. Ça, c'est un des nouvellistes qui s'appelle Denis Sigur, qui est de l'association L'Atelier de Cyrano, qui se met en costume d'époque et qui invite les jeunes et les gens de tous âges, mais à partir dès qu'on sait écrire, à venir écrire une carte postale, qu'ensuite les enfants aiment bien ça, parce qu'ensuite ils veulent la poste, ils l'envoient à leurs parents, etc. Et puis le troisième atelier d'écriture, ça, ce sera un atelier fermé, puisque ça s'appelle Risque de chute. C'est Françoise Guérin qui l'organise. C'est un auteur lyonnais. Et pendant une heure, eh bien, elle invitera les 10 personnes qui seront là, elle n'en prend pas plus de 10, à écrire un texte. Et voilà, nous aurons aussi une murder party, c'est-à-dire que il va se passer, je peux vous l'annoncer déjà, samedi il y aura un crime affreux qui va se créer, qui va avoir lieu à Lauzerte, et le dimanche, eh bien, il y aura des indices qu'on trouvera soit auprès des auteurs, soit à certains endroits de la place nationale ou des environs proches de la place nationale, et qui permettront de trouver qui a commis ce crime atroce.
C'est Cluedo.
Voilà, c'est un peu ça. Alors, 30 auteurs, donc, qui seront là. Donc, venez, vous pouvez venir en famille, parce qu'il y a vraiment des animations aussi qui sont pour les jeunes. Les auteurs n'ont pas simplement écrit des livres d'adultes. Il y a des nouvelles pour les jeunes, il y a des romans pour les jeunes. Il y a 8 auteurs au moins qui ont écrit pour les jeunes. Donc, venez en famille. Il va faire beau, ça c'est sûr. Ou du moins, on croise les doigts pour. Et ça devrait être une belle fête. Alors, merci d'en parler autour de vous. Puis, ne manquez pas, tout de même, l'apéro de clôture offert par la mairie. Ça se rate pas.
Voilà, le 12 septembre.
Place aux nouvelles, 5e édition à Lauzerte.
Voilà, le 18 septembre, place nationale, une autre place avec aussi la Décornière.
Une autre place, ce coup-ci à Montauban,
au passage
toujours.
17. Ouais.
Alors, cause toujours, il s'agit dans le cadre de l'exposition qui s'appelle La Ronde des Puits et que l'on peut voir actuellement au passage 17, une exposition qui présente des photographies en sténopée des puits que l'on peut trouver dans notre région. Eh bien, il y a une rencontre, d'où cause toujours. Une rencontre qui sera animée par les membres de l'association et la promotion de l'identité des causes du Quercy, la PIC. Il y aura également tous les créateurs qui ont réalisé des travaux, des peintures ou des photographies autour de ce thème. Donc une rencontre pour parler des puits, mais également une lecture de contes extraits des petits ouvrages édités par la PIC, notamment les contes autour des puits. Ce sera donc le samedi 18 septembre à 11h au passage 17.
Et c'est organisé conjointement donc par la PIC et par Maurice Beau, notre confrère absent aujourd'hui de la librairie Beau Livre Place Nationale.
Absolument.
Vous nous en avez parlé en tout début d'émission, Jacques Griffo. Il y a une rencontre qui est prévue avec Delphine Berthelon le 30 septembre au
oui,
Scribe.
Oui, donc Delphine viendra au Scribe à 19h. Elle présentera son dernier roman donc qui s'appelle L'effet Larsen, mais je pense qu'elle parlera aussi de Twist. Elle aura été précédemment au lycée Michelet rencontrer les élèves du lycée Michelet, puisque son roman Twist a eu le prix du lycée Michelet 2010. 30 septembre à 19h au Scribe.
Et puis, pour finir, encore cet appel, Philippe
Bernier.
Pour finir
le rappel de l'appel à la création, nous avons repoussé jusqu'au 18 septembre la date limite de remise de textes, de poèmes, aussi bien que de bandes dessinées, de nouvelles, enfin de toute forme de création sur le sujet du livre, du lieu du livre dans notre cité. Non pas qu'on ait eu aucune réponse jusque-là, au contraire, nous avons déjà des contributions nombreuses et toutes fort intéressantes. Et donc, je rappelle que cela débouchera une soirée en octobre à la bibliothèque municipale où donc les textes seront lus, les œuvres seront montrées, projetées.
Allez, on fait un tour de table des ouvrages que vous nous avez présentés aujourd'hui pour finir. Jacques Griffo.
Alors, Le Front Russe de Jean-Claude Lalumière au Dilettante. Et ensuite, L'effet Larsen de Delphine Berthelon. J'ai mentionné aussi que Twist, le livre précédent de Delphine Berthelon, publié comme L'effet Larsen chez Jean-Claude Lattès, avait obtenu le prix du lycée Michelet 2010.
Hugues Dadi.
Alors, je vous ai parlé de Librairie Wars, donc un shoujo manga édité chez Delcourt, et également le sulfureux, la série sulfureuse The Boys, édité chez Panini.
Philippe Bernadou.
Le coup de cœur absolu de la rentrée pour Jérôme Ferrari où j'ai laissé mon âme chez Actes Sud, et l'inévitable Michel Houellebecq, La carte et le territoire chez Flammarion.
Merci messieurs, je vous donne rendez-vous à dans un mois, premier mardi du mois, 17h, pour une nouvelle édition des Voix de l'Alma.
À bientôt.
Merci, au revoir. Au revoir.